nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Dans une soirée qui se passe dans un centre de bal du bateau. Je suis sûr que l'on va trouver quelque chose de très intéressant. Le voyage est long mais agréable à cause des jeux, fêtes et tout. Enfin, ils sont arrivés sur les lieux où se trouve ce fameux continent. La mer est agitée. ciel est gris. Il y a de la brume. Le bateau s'est arrêté. Capitaine et Harold donnent des ordres pour embarquer les gens dans le sous-marin. Le sous-marin est divisé en trois parties. Une pour l'équipe de pilotage, une pour l'équipe scientifique qui a des ordinateurs, caméras, sondes, bras télécommandés pour diriger des robots s'il y a quelque chose à prendre. La troisième partie, c'est pour les passagers invités. Ils sont comme dans des cabines de car, avec des sièges. Ils peuvent voir à travers les hublots. Ils ont en face d'eux des masques à oxygène, des bouées de sauvetage. Ils sont attachés avec des ceintures de sécurité, comme pour les voitures. Rentre dans le sous-marin les pilotes, puis l'équipe technique scientifique, et en dernier, les invités. J'ai bien entendu Gilbert, Julien, Harold, Monsieur de Jean-Ju et François, etc., etc. Monsieur de Jean-Ju s'est assis à côté de François et lui dit « Je suis très ému, j'ai peur que l'on retrouve des corps. » François lui dit « Vous ne risquez pas d'en retrouver depuis le temps. Ils ont dû être mangés par les poissons. » « Oh, pardon !» Jean-Jules dit « Vous avez raison, hélas !» Une fois que tout le monde est dans le sous-marin, on ferme bien les entrées. La foule qui est restée sur le bateau regarde l'amérissage du sous-marin. Le sous-marin est levé par une immense grue qui le sort du bateau, le soulève et va le poser délicatement, si l'on peut, sur cette terre, sur cette mer agitée. Les passagers ont peur en voyant monter dans le ciel leur sous-marin se poser sur la mer agitée, mais physiquement n'ont rien ressenti. Pierre-Max est soulagé, il dit « Je croyais que j'allais vomir !» Mais non. Puis le sous-marin flotte et s'éloigne du bateau. Puis, une fois éloigné, il commence à descendre. J'envoie du bleu. L'eau montait petit à petit du hublot. Ça fait une sensation étrange de chaleur. Mais l'air conditionné arrange les choses. Petit à petit, il s'enfonce. Personne ne parle. Il s'enfonce. On ne voit plus le ciel, c'est de l'eau houleuse. Puis, que de l'eau. Pas de poisson qui tournoie, menaçant. Ensuite, des poissons commencent à nous tournoyer, menaçant. Puis, ils s'enfoncent encore. C'est long, très long. les caméras qui sont de tous les côtés du sous-marin filment tout. Ce qu'ils voient et le son aussi. La descente est longue, très longue. L'eau se fait de plus en plus trouble, sombre. On y voit de moins en moins. C'est brumeux. Comme une eau sale. On allume des phares. Tout le tour du sous-marin. On est sur le fond. On voit le fond. Qui est un fond comme les autres. Du sable, quelques plantes, quelques poissons, etc. Le sous-marin sillonne le fond pendant un long, très long moment. Les scientifiques, avec des cartes, suivent ce qu'ils voient sur l'écran, près des échantillons. Ils regardent l'eau, sa température. Tout le monde regarde. Soit le hublot, soit la télévision. François et M. de Janjou regardent bien. Le temps passe. Pas de traces de ce foutu continent. Harold, les scientifiques sont énervés et soupirent. Harold dit : il n'a pas venu s'évanouir. Vous êtes sûr que c'est là ? Le chef des scientifiques, un homme grand, mince, blond, dans les 35 ans, habillé d'une blouse blanche, lui dit : nous sommes sur les lieux même. Mais il n'y a rien. Alors il lui demande : mais où est-il ? Nous ne savons pas. Il y a peut-être eu un désagrégement. Nous allons continuer à chercher. Continuer à sillonner le fond pendant des heures. Les passagers se demandent pourquoi ils ne voient pas rien du sixième continent. Puis, au bout d'un moment, l'on dit aux gens qu'on va remonter à la surface, que le continent, ou plutôt les restes du continent, n'a pas été retrouvé. François n'est pas déçu. Pour lui, le sixième continent, c'est une vieille histoire. Mais pour M. de Janjou, c'est une grande déception. Parce que lui a encore des peines, des brûlures. Il dit à François : j'aurais aimé, sur moi, trouver quelque chose de cet endroit. Je devais y habiter. Moi aussi, mais à la dernière minute, j'ai pu y aller. Je suis tombé malade d'une forte grippe. Et tous mes amis, ils sont allés et ont disparu. Pour moi, c'est toute une partie de ma vie qui a disparu dans les flots. François lui dit : je vous comprends. Au fur et à mesure que l'on avance dans la vie, on perd des gens qui comptent pour vous. Moi qui suis encore jeune, j'ai déjà cette impression. Il faut se dire qu'il y a encore des gens bien à connaître, bien sûr. Ils ne peuvent pas remplacer les autres. Max, qui est pas loin d'eux, dit « C'est un scandale! On nous a pas retrouvé le continent! On nous a fait venir pour rien ici! Rien! Il y a de la triche! On me prend pour qui? » Ce Jean-Jules lui dit « Vous, mon ami, vous amenez jusqu'ici gratuitement et dans des conditions de grand luxe. Vous avez fait une magnifique croisière. Et le retour, c'est la même chose. Alors, vous plaignez de quoi ?»
Pierre-Max lui dit, « Mais on n'a pas retrouvé le continent, comme on me l'avait promis. »
Le Jean-Jules lui dit, « C'est pas la faute des organisateurs de cette expédition qui, s'ils n'ont pas trouvé le continent, ils sont encore plus ennuyés que vous. »
Pierre-Max lui dit, « Il y a de la triche !»«
Mais non, arrêtez de geindre !»«
Vous en avez de bonnes, vous ! Qu'est-ce que je vais dire, moi, à mon émission ?»
Monsieur Jean-Jules lui dit, « Vous chanterez, et puis, vous aurez à décrire le beau voyage, les fêtes et les gens que vous aurez interviewés, rencontrés. »
Pierre-Max tait boudeur.
Monsieur Jean-Jules rit et dit à François, « C'est un cas, nous l'acceptons parmi nous, par pitié. » Et puis, il était écouté par Marguerite Duras, il y a de cela longtemps. Elle le trouvait sensuel et charnel.
François lui dit, « Elle a de drôles de goûts. »
Elle avait de drôles de goûts.
Monsieur de Jean-Jules lui dit, « C'était une intellectuelle. »
Harold est complètement déprimé. Il a raté l'expédition. Il se dit que son avenir est perdu. Tout le monde va le prendre pour en demeurer un idiot. Lui qui voulait faire une grande pub médiatique. Rien. Il se sent perdu. Il se dit que peut-être que la Framblanc va lui demander des comptes pour cette chose qui a coûté une fortune pour rien. L'on va le renvoyer. Il dit à Judith, qui est près de lui, dans la cabine des scientifiques.
Je suis perdu.
Mais non. Et puis, vous êtes avec nous.
Oui, pote, mis à la porte.
La remontée se fait tout doucement. Tout le monde est déçu. Petit à petit, l'eau s'éclaircit. Puis, l'on voit des vagues. Un bout de ciel.
L'avion est en train d'atterrir. Où est Stasi?
Vous avez mon numéro.
Et là, ils voient l'horreur. Surtout pour le pauvre Harold. C'est la mer, des bateaux de guerre de tous les pays, des hélicoptères, même du Vatican. Le capitaine inquiet voit tout ça, ils savent que faire.
Les Américains, inquiets, se demandent ce que vont faire les Français. Ils vont-ils pas recommencer avec ce foutu continent? Le pape aussi, les Chinois, les Russes, les pays d'Europe. Alors, ils sont venus en observateur, avec des journalistes, télévision et tout. Le sous-marin a remonté à la surface entouré d'une armée, d'une horde de bateaux, avec des hélicoptères, des avions. Il y a peut-être 1000 bateaux. Le tout, avec, il y a des caméras de télévision sur les hélicoptères, dans les bateaux. C'est mondialement présenté en direct. Le sous-marin réussit à se faufiler dans tout ça. Il est déposé en douceur sur le pont du bateau. Il y a des gens qui n'ont rien.
L'avion est en train d'atterrir. Où est-ce?
On ne les fait pas sortir. Le sous-marin, l'équipage des scientifiques et les passagers. Tous les gens sont contents de les recevoir. Puis, on les fait rentrer.
L'avion est en train d'atterrir. Où est Stasi?
Tout l'équipage et les passagers dans la salle des fêtes. Lorsqu'ils arrivent, tout le monde les applaudit. On les met sur une estrade, l'équipage, les scientifiques, avec Harold, démoralisé. Des journalistes du monde entier sont là et posent des questions. Il y a même des caméras de télévision. Harold leur dit, nous n'avons pas réussi à trouver les restes du sixième continent. Rien. Grande déception. Les gens le savent déjà parce qu'ils ont assisté en direct sur écran géant à l'expédition. Ensuite, buffet. Discussion, questions. Mais qui est devenu ce continent, etc. Après la cérémonie, après les cérémonies, les médias, l'armée, bateaux, etc. s'en vont. Et l'Amérique est satisfaite. La France ne va pas recommencer cette histoire. Le Vatican aussi, le pape dit. Dieu a créé 5 continents. Et non 6. C'est faire un affront à Dieu que d'en créer un autre.
L'avion est en train d'atterrir. Où est Stasi? Vous avez mon numéro de téléphone.
Le bateau s'en retourne. La vie reprend sur le bateau. L'aventure est finie. Harold reste introuvable durant des jours et même des nuits. Certains disent qu'ils l'ont vu tourner du côté des coursives du service vers les chaloupes et les barques et qu'il est avec un jeune marin. Il a l'air bien, l'âme en peine. Judith dit à tout le monde, faut le laisser en paix. Le pauvre, il a eu une très grande déception. Pierre-Max lui dit, et moi aussi. François, le soir, retrouve Judith et ils font dans la chambre. Des choses intimes, il lui dit. Je suis triste pour Harold. Elle lui dit. Ne t'en fais pas, ça nous a fait malgré tout une belle pub et gratuite. Le monde entier a parlé de nous. Et pour rien. Tout le monde nous a vus et a vu ce dont est capable la Franc-Blanc. Et a vu notre puissance. Le retour se passe bien. Ils arrivent au Havre, bien entendu, d'une façon plus discrète qu'avec leur départ. Ils sont venus directement à la gare dès leur arrivée. Et ils sont mis dans un train spécial pour les ramener à Paris. Chacun reprend sa place qu'ils avaient à l'arrivée. Harold est toujours aussi déprimé et ne parle pas. En plus, il a une blessure au corps. Une aventure qui lui est arrivée durant le voyage. Arrivé à Paris, chacun reprend sa vie. Harold a eu une discussion avec Judith qui lui a remonté le moral pour une chose et pas pour une autre. Voir l'élu et son aventure amoureuse sur le bateau. Monsieur de Janju va de suite à Rome parler de l'expédition diabolique avec le pape. François reprend ses occupations, terrain, cinéma et tout. Il continue à voir Judith. Les jours passent. François voit toujours Alexis et sa famille. Il lui a parlé de l'expédition. Ce qui fait rire Alexis. Pour lui, François est un farceur, un blagueur, ça le fait rire, mais il l'aime bien parce qu'il le trouve sympathique. François est surveillé de près par le ministre de l'Intérieur et cette soleil, la dame en noir. L'homme en noir qui habite dans la maison, la petite maison, reçoit Judith dans son bureau.
Vous devez faire attention. Il ne faut pas que ce Ducourt ait des rapports privés avec Gilbert ni le père. On ne sait pas encore qui est qui. Vous aussi, vous devez faire très attention.
Je lui dis continue à voir son bébé. Elle l'amuse et le détend. À une soirée, Harold est près de Judith. Ils regardent tous les deux François. Harold lui dit, j'aimerais bien l'avoir celui-là. Et lui dit, non, il est à moi. Il lui fait, tu es égoïste. Il lui dit, choisis-en un autre. Lequel? Pas Gilbert? Pas Alexis? Pas Gilles? Pas Frédéric? Il n'en reste que lui. Les autres sont trop dangereux. Et lui fait, mais lui aussi l'est. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.